franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et la pollution sonore des océans, notre sujet à la une de la science aujourd'hui. Et des vocalises d'orques, voilà, vous les entendez, elles sont au milieu des moteurs de paquebots dans les eaux du port de Vancouver, en l'occurrence, pour illustrer ce sujet encore mal connu du bruit sous-marin. Samedi, s'est terminé à Paris le colloque Vacarme dans l'océan que vous co-organisez. Hervé Demez, bonjour.
Bonjour.
Avec Héloïse Berkowitz, vous êtes professeur à Polytechnique et directeur de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. Et puis également avec nous pour discuter de ce sujet, comme tous les lundis, Hervé Kems, avec le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Depuis quand les scientifiques s'intéressent à la pollution sonore des océans, Hervé, exactement ?
Eh bien, depuis une vingtaine d'années, notamment quand, en 1996, sur les rives de la Grèce, une douzaine de baleines à bec de Cuvier se sont échouées et les chercheurs se sont rendus compte que c'était lié à des sonars à basse fréquence qui étaient utilisés à proximité par des navires de l'OTAN. Et donc depuis, il y a eu énormément d'échouages, notamment de cétacés, qui a fait avancer la science et l'analyse de ces problèmes. Et on s'est rendu compte que les sonars militaires, mais aussi le trafic maritime, les sondages pétroliers, voire les constructions d'éoliennes marines, avaient des effets sur les cétacés, notamment parce qu'elles elle perturbe l'ouïe, qui est le sens premier des mammifères marins. Mais on s'est aussi rendu compte que ça avait des conséquences sur les invertébrés, comme les mollusques et les calamars. Oui. Et comme les activités maritimes ne cessent de se multiplier en ce moment, il y a un vrai problème écologique qui se pose. Et donc, il y a eu ce colloque organisé à Paris, à la Maison de l'Océan, le 20 septembre dernier.
C'est un moment important d'ailleurs, autour de ce sujet. Axel.
Oui, Hervé Demez, Hervé Kempf a cité quelques exemples. Quels sont les bruits les plus dommageables pour les animaux marins ?
Alors, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit continu, qui est celui, par exemple, des navires. Et puis, il y a le bruit impulsif, qui est celui des sondages pétroliers ou, ça a été mentionné, des enfoncements de pieux pour les éoliennes. Et donc, ce sont ces deux bruits assez différents qui ont des effets sur les animaux.
Et les conséquences sont différentes en fonction du type de bruit ?
Les conséquences sont différentes, c'est-à-dire que là, on a entendu un mammifère qui dialoguait avec ses congénères, et s'il y a un bruit de fond important, ça perturbe la communication de ces animaux dans des périodes qui sont délicates, comme la chasse ou la saison des amours.
Oui, ça se passait dans le port de Vancouver, et ça n'est pas pour rien qu'on a choisi cet extrait, justement, Axel, puisque c'est là que les premières mesures ont été prises pour baisser les nuisances sonores.
Effectivement, le port de Vancouver est en pointe sur ces questions, et a mis en place un certain nombre de mesures, de régulation, pour essayer de ne pas perturber trop les mammifères marins qui sont très présents dans cette région.
Mais est-ce qu'on peut préciser un petit peu le mot nuisance ? Est-ce que ce bruit a un impact directement sur la physiologie des animaux ou on parle de perturbation plus largement ?
Alors, on a mentionné les sonars et on a de bonnes raisons de penser que les sonars sont à la base d'échouages de baleines, comme il a été dit. Donc là, on a la mort des animaux, c'est l'aspect le plus dramatique du problème. On l'a mentionné aussi, on s'est aperçu que des animaux qui n'avaient pas d'oreilles, qui ne discutaient pas, qui ne communiquaient pas, mais qui avaient une oreille interne, comme nous l'avons, qui permet l'équilibre des animaux, pouvaient eux aussi avoir leur être en fait menacés de mort par les sonars. Et puis après, il y a des lésions possibles dont on ne sait pas encore très bien quelles sont les conséquences. Et puis sinon, il y a la perturbation des comportements, encore une fois, de pêche ou de reproduction.
Hervé Kempf.
Alors, quelles sont les mesures justement qu'il est possible de prendre et sont-elles capables d'annuler ce bruit ?
Alors, il existe des solutions techniques, à la fois pour les éoliennes, par exemple, on peut essayer de faire des rideaux de bulles autour des constructions d'éoliennes qui retiennent le bruit. Ça marche assez bien, mais pas à 100% parce que tout dépend de l'état de la mer. L'industrie pétrolière travaille sur des instruments d'exploration qui seraient beaucoup moins nuisibles que les instruments actuellement utilisés. Et on sait faire des navires beaucoup plus silencieux à la conception. Ce qui ne coûte pas trop cher, parce que le gros problème, évidemment, c'est le coût.
Vous l'avez dit, les animaux ne font pas qu'entendre, ils ressentent le bruit dans l'océan. Comment on fait quand on est chercheur pour se mettre à la place d'un dauphin, par exemple, qui passerait à côté d'un port, pour comprendre l'impact ?
C'est une bonne question.
Alors, lors de la conférence, un des chercheurs a essayé de donner l'équivalent pour un animal de ce qu'il peut ressentir en utilisant des bruits humains. Donc, c'est ce qu'on entendait dans le reportage que vous avez passé, dans l'enregistrement que vous avez passé. C'est-à-dire qu'il y a si vous êtes dans un cocktail avec un bruit de fond important, il y a des types de communication comme ceux des dauphins qui sont par clic qui ne passent plus en fait, et donc on voit comment la communication entre les animaux peut être profondément perturbée par le bruit ambiant.
Mais on arrive vraiment aujourd'hui à mesurer l'impact global de cette pollution sur les animaux marins, savoir combien d'espèces sont touchées en particulier?
Alors ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision globale du problème, mais on a ce qu'on a appelé avec Héloïse Berkowitz un faisceau d'indices graves et concordants. C'est-à-dire qu'on a des études. Effectivement, les premières études portaient sur les mammifères marins, ce qui était le plus évident. Une des grandes découvertes de Michel André, qui est un des grands spécialistes du sujet, a été de montrer que ça pouvait toucher les calamars géants, donc des espèces qui n'étaient dont personne ne pensait qu'elles pouvaient
être impactées
par ce type de problème.
On nage un petit peu dans ce problème, si j'ose dire, mais est-ce qu'il y a un indice synthétique qui permettrait d'appréhender l'évolution précise de ce bruit sous-marin ?
Alors, on a des indications. On pense que le bruit a été multiplié dans certaines zones par 10 dans les années récentes. Donc, c'est un problème qui est vraiment très important et qui est en voie d'aggravation. Donc, c'est le moment de réagir et c'est le moment d'essayer de trouver des solutions, ce qui implique des acteurs extrêmement divers et extrêmement nombreux, ce qui est la difficulté du problème de gestion. Moi, je suis chercheur en gestion et c'est ça qui m'intéresse dans le sujet, cette difficulté d'un problème de gestion multi-acteurs sur une échelle énorme et dans un cadre qui n'est pas fixé comme le cadre des problèmes de gestion dans les entreprises telles qu'on les rencontre habituellement.
Hervé de Metz, est-ce qu'il existe des pays qui limitent le bruit dans leurs eaux territoriales et qui commencent à le faire ?
Alors, tous les pays européens commencent à le faire parce que la Commission européenne est intervenue sur le sujet. Des pays sont en pointe. Par exemple, l'Allemagne a pris des mesures autour des parcs éoliens pour essayer de vraiment limiter le bruit à la construction. Et tous les pays européens sont censés passer la directive, transposer la directive européenne dans leur législation et ils sont tous en train de travailler sur ce sujet.
Bon, on a le sentiment qu'on est passé quand même à la vitesse supérieure sur la prise de conscience, au moins, de ces nuisances sonores dans les océans. Et puis donc ce colloque qui s'est déroulé la semaine dernière, Vacarme dans l'océan. Merci beaucoup Hervé de Metz. Hervé Kempf, on retrouve ce sujet dans les pages de reporter.net, surtout en cliquant sur Internet,
en l'occurrence.
Voilà. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chats responsables d'une soixantaine d'extinctions de mammifères d'oiseaux et de reptiles depuis 500 ans. Ce chiffre, publié par une université australienne, nous rappelle que nos félins préférés sont également des espèces invasives. Ils sont responsables de nombreux désastres écologiques partout dans le monde, mais surtout dans les îles où les populations endémiques ne sont pas habituées à leur présence. Dans le classement des espèces invasives les plus dommageables pour la biodiversité, les chats donc arrivent deuxième derrière le rat noir. Ils sont suivis des renards, des chiens et des cochons. La Chine vient de mettre en route le télescope FAST, le télescope le plus large au monde, construit en 5 ans entre deux montagnes de la province de Guizhou, au sud-ouest de Pékin. Sa coupole sphérique de 500 mètres de diamètre est très impressionnante. Les observations scientifiques officielles devraient débuter dès aujourd'hui en quête d'étoiles, de galaxies, de mondes nouveaux, avec une résolution deux fois plus grande que les grands télescopes actuels. Déjà surnommé Tianyang, les yeux du paradis, ce petit bijou à 260 millions de dollars sera accessible aux chercheurs du monde entier, mais également aux touristes. Et puis si les moustiques préfèrent généralement piquer les hommes plutôt que les animaux, c'est pour des raisons génétiques et c'est un élément important dans la lutte contre les maladies transmises par ces insectes. En mettant le doigt pour la première fois sur un gène en particulier nommé 3RA, qui rend parfois le moustique plus friand de vaches que d'hommes, des chercheurs californiens espèrent apporter une aide précieuse à la lutte sur le terrain. La gestion des populations locales de moustiques en fonction de leur génome sera certainement possible bientôt pour ne sélectionner que les individus mutés se nourrissant sur le bétail.